Vous êtes sur RTL.
Place à RTL Soir avec vous, Marion Calais. Bonsoir.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir avec toujours à la une l'accueil de l'Ocean Viking à Toulon et ce sera à la une de votre journal. Vincent Derosier, bonsoir.
Bonsoir.
RTL a eu accès cet après-midi au centre où les 230 migrants sont pris en charge.
Étienne Baudu est sur place, il nous dira dans un instant ce qui attend les rescapés dans les prochaines heures.
Dans l'actualité aussi, la reprise de Kherson par les forces ukrainiennes.
Des scènes de liesse dans les rues de la ville alors que 30 000 soldats russes sont partis, selon le Kremlin. À suivre également un témoignage exceptionnel, Dany le Prince clame son innocence sur RTL. Lui qui a été emprisonné pendant 18 ans pour le meurtre de 4 personnes, vous l'entendrez. La grippe aviaire, déjà 800 000 volailles abattues depuis cet été. Les éleveurs extrêmement inquiets qui doivent désormais confiner leurs animaux. Enfin, le retour du gamin en or sur ses terres. Karim Benzema a passé la journée à Bron. Là où il a fait trembler les filets pour la première fois dans les années 90, il présentera son ballon d'or ce soir lors du match Lyon-Nice.
À suivre également la brigade RTL avec l'arrivée d'un petit nouveau sur le marché du discount alimentaire sur fond de baisse du pouvoir d'achat. À 18h15, l'invité de RTL Soir, première prise de parole du président du tribunal judiciaire de Nanterre après la mort inédite il y a 3 semaines d'une magistrate en pleine audience. Jusqu'à 20h aussi, les dessous de l'actu, les dessous de la préparation très secrète de la sélection du Qatar à 9 jours du début du mondial sur ces terres. Et puis à 18h40, on va refaire nos régions, vos 20 minutes d'actu au plus près de chez vous. Au menu, Vincent.
Un resto, c'est une première au cœur d'une prison à Marseille. L'avenir polémique d'un monument historique à Douarnenez. Une recette auvergnate d'escargot. Et puis on ira retrouver notre expatrié de la semaine, une Orléanaise installée à l'île Maurice.
La Vénarde, 19h15, ils refont la France. Le regard des correspondants de la presse étrangère sur l'actualité hexagonale. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir.
Bonsoir.
La tendance.
Une tendance ensoleillée une fois que les brouillards se sont levés. Et c'est vrai que localement, comme aujourd'hui, bah, ça va traîner un petit peu.
Bon, de la grisaille par endroit, mais du beau
voilà.
temps majoritairement pour le week-end. À tout de suite.
RTL Soir.
Le journal Marion Calais, Vincent Derosier.
Et donc cette crise diplomatique entre la France et l'Italie autour de l'Ocean Viking et cette question, que vont devenir les 230 migrants arrivés à Toulon ce matin?
Après 3 semaines d'errance en mer, le navire humanitaire a accosté ce matin au port militaire de Toulon. C'est une première en France. Et Étienne Baudu, vous êtes l'un des rares journalistes à avoir pu visiter le centre où les rescapés sont en train d'être accueillis.
Oui, il s'agit d'un centre qui accueille normalement les vacances, les colonies de vacances d'une grande entreprise. L'été, il se trouve au bout de la presqu'île de Gien. Alors le cadre, c'est vrai, est idyllique, mais les premiers migrants qui sont arrivés cet après-midi n'ont pas guère apprécié la vue pour l'instant. Ils sont visiblement exténués et aussi très encadrés, explique Camille Chaise du ministère de l'Intérieur.
C'est une zone sécurisée et fermée où on accueille le plus dignement possible ces migrants qui ont besoin de repos. On leur distribue par exemple des kits hygiène, vous allez le voir dans un instant, pour pouvoir se laver. Aussi se restaurer, boire et manger. C'est des logements assez simples, assez chiches, mais très dignes. Et donc c'est l'idéal parce qu'il est très grand pour accueillir ces migrants qui ont besoin une fois de plus de repos et de conditions de vie humaines.
Et lorsqu'ils arrivent, tout est très bien organisé. Ils passent de stand en stand, un pour se restaurer, un autre pour décliner une nouvelle fois leur identité auprès de la police de l'air et des frontières. On leur attribue un logement, certains assez grands d'ailleurs, pour accueillir des familles. Un kit hygiène, on le disait, leur est fourni, ainsi que des vêtements et des victuailles pour une journée. Ouma, une jeune malienne, me disait, les yeux rougis, qu'enfin elle allait pouvoir se reposer. Elle espère aussi que ces violents maux de tête vont la quitter.
Étienne, la France a promis de décider très prochainement de leur sort. Qu'est-ce qui les attend dans les prochaines heures, dans les prochains jours?
Alors, dès demain, en fait, des agents de l'OFPRA seront sur place pour enregistrer les demandes d'asile. Des procédures accélérées, instruites normalement jusqu'à mardi. Ensuite, soit les demandes sont acceptées, les migrants entreront dans le parcours classique des demandeurs d'asile et quitteront le village pour des centres d'hébergement dans la région. Parmi eux, les 2/3 pourront alors également être relocalisés dans la dizaine de pays européens qui se sont dit prêts à les accueillir. En revanche, évidemment, ceux qui se verront refuser leur demande, eh bien, ils seront normalement reconduits dans leur pays.
Étienne Baudu en direct de Toulon pour RTL.
Et ces dernières heures, la tension entre la France et l'Italie est montée d'un cran. Paris a annoncé des mesures de rétorsion envers Rome, ce qui n'a pas plu du tout à la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Elle a répondu d'ailleurs cet après-midi à Emmanuel Macron au micro RTL d'Olivier Bonnel.
J'ai été très marqué par la réaction agressive du gouvernement français qui est incompréhensible et injustifiée. Qu'est-ce qui vous met en colère? C'est le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement pour les migrants en Méditerranée. Ce n'est écrit dans aucun accord. Faut-il retenir que l'Italie doit être, parce que tous les autres l'ont choisi, l'unique port possible pour les migrants qui arrivent de l'Afrique?
Et de son côté, Éric Zemmour dénonce une décision désastreuse et scandaleuse d'Emmanuel Macron, alors que l'ONG SOS Méditerranée assure que cette situation exceptionnelle ne doit plus jamais se reproduire.
RTL Soir.
RTL 18h05 et la reprise de Kherson. L'armée ukrainienne est entrée aujourd'hui dans cette ville stratégique du sud-est du pays.
Plus de 30 000 soldats russes sont partis d'après les autorités russes. Les Ukrainiens, eux, sont entrés dans la ville qui était tombée début mars, au tout début de la guerre, Julien Fautrin.
Oui, absolument. Accueillis par la foule, les soldats qui entrent triomphalement dans la ville industrielle de Kherson. On les entend, quelques larmes de bonheur qui actent aujourd'hui la troisième grande bataille remportée par les Ukrainiens après avoir repoussé les Russes près de Kiev au début de la guerre, après la contre-offensive de septembre près de Kharkiv. Le renseignement militaire ukrainien demande aux soldats russes qui seraient déguisés en civil de se rendre. Il y a peut-être aussi des mines ou des snipers encore dans la ville ou à proximité. Les Russes, par ce repli, laissent penser qu'ils ont désormais besoin de souffler, besoin de se reconstituer, de se réorganiser. De l'autre côté, les Ukrainiens ont-ils les moyens de poursuivre leurs attaques? Leur intérêt est d'aller vite, vite tant que les conditions météo le permettent, vite tant que la Russie est encore en train d'organiser ses lignes de défense, vite tant que les 300 000 Russes mobilisés ne sont pas arrivés sur le front, car une pause dans la guerre aujourd'hui ne peut profiter qu'à ceux qui sont en difficulté, les soldats de Vladimir Poutine.
Merci Julien Fautra du service étranger de RTL.
Joe Biden est en Égypte, le président américain venu participer à la conférence sur le climat, hein, Sharm el-Sheikh.
Et c'est d'un ton grave que le président américain a lancé cet avertissement. La crise climatique menace la vie même de la planète. Joe Biden qui réclame que tous les pays du monde fassent plus pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Et dans ce contexte, un triste record au Brésil.
La déforestation en Amazonie a atteint 904 km² en octobre. C'est un record pour ce mois de l'année et à moins de deux mois de la fin du mandat du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro.
Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour un quadruple meurtre. Écroué pendant 18 ans, Dany Le Prince n'a cessé de clamer son innocence et aujourd'hui, il s'exprime sur RTL.
En septembre 1994, les corps de son frère, de sa belle-sœur et de deux de leurs filles avaient été découverts dans leur maison, tués avec un instrument de découpe, une feuille de boucher. Dany Le Prince avait d'abord avoué ce crime en garde à vue avant de se rétracter.
Quand j'arrive chez moi, déjà je me lève à 2h30 du matin et jusqu'à la garde à vue, j'ai pas fermé l'œil. Je sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure il est. J'ai plus rien. Ils m'ont enlevé ma montre. Ils m'ont traité de tous les noms que je voulais pas avouer, que j'étais un... Enfin, je sais pas si je dois prononcer les mots, mais je l'ai prononcé. Ils m'ont traité de fumier, d'enculé. Ils m'ont prononcé une phrase, je sais pas d'où ça sortait, mais ça ne voulait rien dire. Et eux me disaient que je ne comprenais pas. Ouais, enfin, c'était. J'ai pas été jugé, j'ai été condamné, et j'étais condamné depuis très très longtemps. La juge ne m'entend pas, elle m'écoute pas, et quand je lui parle, elle dit que je mens, et quand je parle pas, elle dit que je cache quelque chose. Donc, je fais comment? La garde à vue que j'ai vécue, ça a été. Quand je dis l'enfer, ça a été vraiment l'enfer.
Dany Le Prince qui sera l'invité exceptionnel de Jean-Alphonse Richard dans l'heure du crime ce lundi, le 14 novembre donc à 14h30 sur RTL. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, le podcast intégral de l'émission est à retrouver dès ce vendredi soir sur RTL.fr et sur toutes nos plateformes de téléchargement.
Votre journal se poursuit dans un instant avec la grippe aviaire et les éleveurs de volailles obligés de confiner leurs bêtes à contre-cœur. Nous serons en Dordogne dans un instant, à tout de suite.
RTL Soir.
Marion Calais.
Marion Calais.
RTL Soir.
À 18h10, la suite du journal avec Vincent Derosier. Près de 800 000 volailles déjà abattues depuis cet été. La grippe aviaire oblige les éleveurs à confiner leurs animaux.
Les volailles qui gambadent en plein air, c'est terminé, pour l'instant en tout cas, car le niveau de risque lié à la grippe aviaire a été porté de modéré à élevé sur l'ensemble du pays. Clara Etchari, vous vous êtes rendue à la ferme du Lac Noir en Dordogne, dans le petit village de Saint-Avid de Vialard, et vous avez rencontré un éleveur de canards très inquiet pour la saison.
Il est contre, mais il n'a pas le choix. Jean-François Rodier est obligé d'enfermer ses canards. Une obligation qui a des conséquences pour les bêtes et pour la vente.
On va encore mentir aux consommateurs. On nous oblige de mentir aux consommateurs. Il va se commercialiser pendant peut-être, je pense, 6 mois, les animaux sous la belle plein air. Alors c'est des animaux qui n'auront jamais vu la lumière du jour. On part dans la même galère que l'année dernière. On a vu un modèle qui n'a pas fonctionné l'année dernière et on nous le réimpose aujourd'hui.
On les met en prison alors qu'ils devraient être dehors, regrette l'éleveur, et cela impacte la qualité des produits.
Sur la ferme, en général, il y a 600 animaux au maximum sur 1 hectare de terrain. Donc ça fait à peu près 15 mètres carrés par animal. Là, quand on passe en claustration, on va se retrouver avec 5-7 animaux au mètre carré. Donc là, quand on voit là, les canetons là, qui sont devant nous, là, qu'on 21 jours, c'est pas trop un problème sur le bâtiment qu'ils ont. Mais quand ils vont avoir 4 mois, ça va plus du tout être la même situation.
Un nouveau coup dur, alors que beaucoup d'éleveurs n'ont pas encore été indemnisés de la crise aviaire de l'année dernière.
Il réclame une commission d'enquête parlementaire. Le député insoumis Louis Boyard, pris violemment à partie par l'animateur Cyril Hanouna sur C8 dans l'émission « Touche pas à mon poste », veut que les députés enquêtent sur les ingérences de Vincent Bolloré dans les médias dont il est propriétaire.
Il a gagné le Ballon d'Or avec le Real Madrid, mais c'est bien à Lyon que Karim Benzema a décidé de présenter ce soir son trophée au Parc OL.
L'attaquant des Bleus qui a marqué ses premiers buts au Sporting Club de Bronterraillon dans la banlieue de Lyon a passé la journée sur place où une fresque à son image a été dévoilée. Et Bertrand Frachon, vous l'avez suivi pour RTL. Enfin, vous l'avez suivi à distance parce que Karim Benzema s'est fait très très discret.
C'est une visite éclair que Karim Benzema a effectuée en toute fin de matinée à Bron pour découvrir la fresque géante qui lui rend hommage. Il est resté à distance depuis le toit d'un immeuble voisin, mais quelques habitants ont eu la chance de le croiser avec beaucoup d'émotion.
Bah, je l'ai vu dans les escaliers. Il descendait. Il est entouré de gardes du corps. Une légende. Vivante.
Du coup, j'ai pu le prendre en photo comme ça, voilà. Et du coup, je suis contente. C'était très rapide en fait, il avait pas le temps de rester. Du coup, on a juste pu le prendre en photo de ça et il est parti.
Il y avait quelqu'un, il avait sa mallette ou il y avait son ballon d'or. Moi, j'ai vu une photo, mais il voulait pas discuter parce qu'il avait pas le temps.
C'était la première fois que tu le voyais ?
Ouais.
Et alors, impressionné ?
Ah ouais, j'étais content. J'avais envie de pleurer parce que c'était beau pour moi.
C'est vrai, c'est tant d'émotions que ça de le rencontrer.
Ouais, il est pas pareil que la télé, c'est pas la même chose, tu vois. Tu dis, je rencontre une star, t'es heureuse, j'ai plus les mots.
La visite de Karim Benzema à Bron n'aura duré que quelques minutes. Il est maintenant attendu ce soir au Groupama Stadium pour y présenter son ballon d'or à l'occasion du match OL Nice.
OL Nice, 15e journée de Ligue 1. Un mot de rugby et notre sondage Odoxa pour RTL et Winamax. 8 Français sur 10 croient très fortement à la victoire du 15 de France demain contre l'Afrique du Sud. Les 3/4 des amateurs de rugby anticipent même un sacre mondial l'année prochaine à la maison.
Bah c'est tout ce qu'on espère. Merci Vincent Derosier. À tout à l'heure. Le temps pour ce week-end, Valérie Quintin, du beau et quelques brouillards.
Bah c'est ça, il faut le temps que les brouillards se lèvent. Et alors pour le coup, comme aujourd'hui, ça pourra traîner un petit peu, notamment sur la moitié nord, mais aussi vers le plateau de Langres ou encore le Val de Saône. C'est précisément par là que ça pourrait rester gris toute la journée. Mais franchement, avec un petit peu de patience, ou plus tard, d'ici la mi-journée ou en tout cas en début d'après-midi, ça pourrait se lever partout. Un temps donc ensoleillé sur tout le territoire demain. Quelques entrées maritimes en Roussillon. Des températures demain matin qui sont un petit peu basses, je vous l'accorde. 0 à Chamonix au réveil. 5 degrés à Aubagne.
Ah, ouais, okay.
Ça un peu, 10 à Paimpol. Dans l'après-midi, comptez 14 à Lyon, 16 à Valenciennes, 17 à Paris, 18 à Saint-Etienne, 20 degrés à Dax et 23 pour Marseille. Même chose pour dimanche.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
La brigade RTL Soir.
Dans la brigade RTL ce soir, l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché du discount alimentaire. L'enseigne s'appelle Prima Prix. Elle a ouvert ses 2 premiers magasins en région parisienne. Bonsoir Valentin Boisset.
Bonsoir.
Prima Prix, c'est un groupe espagnol spécialiste du low cost alimentaire.
Oui, et plus précisément du hard discount. Mais contrairement à ses concurrents, il y a une spécificité, c'est que ce sont des produits de grande marque
Barilla pour les pâtes, Coca-Cola, Nutella, mais moins cher car Primaprix rachète des surstocks ou des invendus partout dans le monde pour les revendre environ 40% moins
cher. Alors vous êtes allé, Valentin, dans l'un de ces magasins à Montreuil. À quoi ça ressemble?
C'est un mélange entre un Franprix de quartier et un Ikea car il n'y a pas vraiment de rayon. Il faut suivre un parcours de l'entrée à la caisse comme chez l'enseigne suédoise. Ce parcours, il vous fait passer devant l'intégralité des produits. Alors ça permet évidemment de tenter le consommateur. Autre point surprenant, les étiquettes, la plupart ne sont pas en français. Les stocks viennent de l'étranger et ça en a dérouté plus d'un ce matin.
C'est espagnol, ils achètent à l'étranger. Hein.
Quand on veut savoir comment s'utilise un produit, c'est en espagnol, parce que ça vient d'Espagne, il y a du portugais, j'ai vu une fois en français, mais sinon, non, faut prendre un traducteur.
Alors évidemment, pas de panique, ce sont les mêmes produits que ceux qu'on achète en France, seulement l'emballage est un peu différent.
Ouais, des clients déroutés, donc, on l'entend, ils vous ont dit quoi d'autre?
Eh bien, mis à part qu'il faut être polyglotte, les clients comparaient à la sortie les prix avec leur magasin habituel. Résultat, beaucoup de produits à 1 euro, comme le paquet de pâtes ou de farine, aucun vin au-dessus de 10 euros, alors il y avait de bonnes surprises.
C'est moins cher que dans les épiceries de quartier, dans les G20, Franprix, etc. Oui.
Par exemple, le riz, il est beaucoup moins cher quand même. Il y a au moins 1 euro de différence sur les marques et sur les tomates aussi.
Voilà, donc des clients satisfaits. Reste à savoir si Primaprix saura se faire une place dans ce secteur qui compte déjà de nombreux acteurs.
Ouais, face à l'inflation, donc le hard discount alimentaire qui compte un acteur de plus, Brigade RTL, signé Valentin Boissé. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, Marie Truchet, cette magistrate de Nanterre décédée en pleine audience, a-t-elle été victime de ses conditions de travail? Le président du tribunal judiciaire de Nanterre prend la parole ce soir sur RTL. À tout de suite.
RTL Soir,
Marion Calais. Marion Calais,
RTL Soir.
2 semaines après les obsèques de Marie Truchet, cette magistrate du tribunal de Nanterre décédée en pleine audience à l'âge de 44 ans, la première prise de parole ce soir sur RTL du président du tribunal judiciaire de Nanterre, Benjamin de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Le 18 octobre dernier, Marie Truchet s'est donc effondrée, victime d'un arrêt cardiaque alors qu'elle présidait une audience de comparution immédiate. Son décès a suscité une émotion immense dans le monde judiciaire, à travers toute la France. Au sein de votre tribunal aujourd'hui, Benjamin de Paris, elle est toujours palpable?
Écoutez, oui, c'est forcément une émotion qui est intense et qui, 3 semaines après les faits, reste une émotion très forte. Il faut dire que c'est un événement exceptionnel parce que ce type de tragédie est unique dans les annales judiciaires. Un magistrat qui décède en robe, en audience et dans l'exercice de ses fonctions. Je crois savoir que ça ne s'est jamais produit et tout un chacun est forcément amené à se projeter sur ce type de situation. Et c'est pour ça que, au-delà de la connaissance que chacun pouvait avoir de Marie Truchet, il y a un aspect également pour chacun de projection de sa propre activité et de ses propres conditions de travail et d'exercice.
L'émotion donc, la solidarité aussi, puisque des magistrats d'autres tribunaux se sont proposés pour vous aider sur un certain nombre d'audiences. Alors, concernant la mort de Marie Truchet, des enquêtes sur les causes exactes de son décès sont en cours. Mais est-ce que pour vous, elle est une victime de la misère du monde judiciaire, du manque de bras et de moyens?
Écoutez, je crois que franchement, à ce stade, on ne peut pas le dire comme ça. Que ça puisse signifier cela, on peut le comprendre auprès des différents acteurs judiciaires. Maintenant que la causalité soit immédiatement affectée à ce type de conditions de travail, c'est les enquêtes qui le diront. Il y a une enquête en recherche des causes de la mort qui est sous l'autorité du procureur de la République qui n'a pas encore communiqué sur ce sujet. Il y a une enquête du comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail, une enquête de plein droit puisque c'est juridiquement un accident de service. Donc il va falloir du temps pour pouvoir analyser et les causes médico-légales et les conditions réelles de travail, est-ce qu'elles ont pu peser dans cette situation. Maintenant, il est vraiment trop tôt pour le dire. Maintenant, vous avez raison de dire que c'est cela que ça peut signifier pour nombre des acteurs, parce que les conditions de travail, elles étaient effectivement dégradées. Il est évident que ces questions-là, elles sont sur la table, oui.
Parce que Marie Truchet, donc, qui exerçait au sein du tribunal correctionnel où les comparutions se prolongent parfois jusque tard dans la nuit, où les dossiers s'enchaînent, ces dossiers sur lesquels elle travaillait, nous a-t-on dit, le soir, le week-end, faute de temps, allant même jusqu'à poser des vacances pour pouvoir les étudier. C'est bien comme ça qu'elle travaillait. Est-ce que c'est comme ça aussi que les magistrats au sein de votre tribunal travaillent?
Écoutez, bien évidemment, et c'est pas seulement au sein du tribunal de Nanterre, c'est dans beaucoup de juridictions de France. les effectifs depuis des décennies n'ont pas suivi. On sait que c'est une notoriété publique, puisqu'aujourd'hui c'est dans le débat public avec le rapport des États généraux, une sous-administration très ancienne des services judiciaires. Alors, il y a des lueurs d'éclaircie pour les années à venir, hein, avec des annonces qui sont des annonces historiques sur les moyens, mais c'est le mode de fonctionnement normal de nos juridictions qui termine particulièrement dans les grandes villes et en Île-de-France. Les flux pénaux sont importants et on a des audiences de comparution immédiate, mais même toutes les audiences correctionnelles qui se terminent relativement tard. Alors, c'est pas tous les jours, mais effectivement, quand on exerce un service de présidence de correctionnel, c'est un engagement physique. Il faut assurer la police et la direction des débats. C'est un engagement intellectuel, ça use forcément les organismes. Mais c'est un mode de fonctionnement sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse, parce que aujourd'hui, et d'ailleurs, on réfléchissait bien sûr, bien évidemment, avant cette tragédie. La question se pose de comment faire. Il va falloir soit absorber moins de flux, soit qu'il y ait plus de... c'est-à-dire moins d'affaires, hein, du jour, mais beaucoup d'affaires sont urgentes pour les victimes, sont urgentes pour la sécurité publique. Donc on est toujours dans un dilemme. Hein. Doit-on tenir l'affaire, la renvoyer? Si on ne peut pas la tenir, il y a beaucoup de collègues qui opèrent déjà, hein, des renvois d'office, mais malgré cela, on a encore beaucoup d'audiences tardives partout en France.
C'est un choix cornélien, finalement, entre la rapidité, l'efficacité de la justice et les conditions de travail des magistrats et des personnels dans leur ensemble. D'ailleurs, au sein du tribunal de Nanterre, en termes de magistrats, de greffiers, combien de personnes manquent-ils ?
Écoutez, jusqu'à un temps rapproché, il manquait une quarantaine de greffiers et entre 6 et 10 magistrats. Alors là, on a obtenu satisfaction avec 5 magistrats de plus. On reste encore un peu en déficit, mais c'est surtout notre format qui n'est pas suffisant pour absorber de tels flux, et notamment notre juridiction qui a aussi des spécificités, puisque sur notre ressort se situe le quartier de la Défense, qui pèse énormément sur notre juridiction et pour laquelle on ne s'est jamais historiquement donné les moyens pour absorber les affaires civiles, commerciales, sociales et pénales d'importance qui sont générées par ce premier quartier d'affaires d'Europe et le quatrième quartier d'affaires du monde.
D'ailleurs, des magistrats ont dénoncé, hein, devant le Conseil d'État la sous-dotation de votre juridiction. Alors, vous l'avez dit, vous avez obtenu la nomination de 5 magistrats après la mort de Marie Truchet. Il faut donc des morts pour obtenir des postes ?
Bah, écoutez, je ne sais pas. C'est certain que... on est satisfait par ces nominations, donc c'est un peu l'alternative fallacieuse pour le ministère. S'il n'avait rien fait, qu'aurait-on dit ? Donc moi, je pas de commentaire à faire. Toute la difficulté, c'est de faire avec une juridiction qui est la 4e, 5e de France, mais qui n'est pas armée pour traiter le contentieux généré par la Défense, qui pèse énormément sur le reste des affaires.
Lors de votre... intronisation, lors de votre installation solennelle à la tête du tribunal de Nanterre, vous aviez pointé un risque d'effondrement. Les faits vous ont donné malheureusement raison ?
Écoutez, c'était mon sentiment en tout cas. Si je l'ai écrit et dit et prononcé, c'est que à la suite de 6 semaines, puisque j'avais pris mes fonctions le 1er septembre, j'avais précisément eu ces 6 semaines pour m'imprégner de l'état d'esprit, de l'état des lieux que je suis en train de faire. Oui, aujourd'hui, on compare beaucoup la justice à l'hôpital. Comme beaucoup de services publics, on a la difficulté à effectuer une continuité des services. Il y a beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de burn-out qui font que c'est préjudiciable à la continuité du service. On ne peut pas assurer, quand on a des trous partout, un service de qualité dans des délais raisonnables, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix permanents et l'effondrement, c'est pas un mythe, ça peut arriver. Alors là, la courbe... a été inversé. La courbe néfaste, en tout cas pour Nanterre, est provisoirement inversée, mais il va falloir aller beaucoup, beaucoup plus loin pour qu'on puisse faire beaucoup mieux.
Un chantier d'ampleur donc engagé au sein de ce tribunal de Nanterre et dans la justice aussi, dans son ensemble. Merci à vous, Benjamin de Paris, président du tribunal judiciaire de Nanterre, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur RTL. Bonne soirée à vous.
Merci à vous.
RTL Soir se poursuit dans un instant avec la préparation ultra secrète des joueurs qataris pour le mondial et le dialogue entre deux géants de la peinture, les dessous de l'actu. Et laissez-vous tenter dernière à suivre. À tout de suite.
RTL Soir, Marion Calais.
RTL. 18h31.
Marion Calais,
RTL Soir.
Et on retrouve Vincent Derosier pour faire le tour des grands titres de l'actualité ce soir.
Après le scandale d'agression sexuelle visant le cardinal français Jean-Pierre Ricard, le Vatican annonce ce soir l'ouverture d'une enquête préliminaire. Jean-Pierre Ricard a avoué avoir eu il y a 35 ans une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Kherson est à nous, ce sont les mots du président ukrainien Zelensky alors que l'armée ukrainienne est entrée aujourd'hui dans cette ville stratégique et symbolique, tombée aux mains des Russes dès le début de la guerre au mois de mars. Enfin, du foot et de la Ligue 1, c'est un billet qui compte double pour les spectateurs du match Lyon-Nice ce soir puisque Karim Benzema présentera son ballon d'or.
Et on suivra ça aussi ce soir sur RTL. Valérie Quintin, la météo, bon, on peut traîner sur la couette le temps que soleil se lève ce week-end.
Et on peut l'idée. Être optimiste, on peut se dire qu'il va se lever partout. Alors certes, sur la moitié nord, ça va traîner comme vers le plateau de Langres ou encore le Val de Saône, mais ça se lèvera, on y croit. Un petit peu d'instabilité en Roussillon, rien de plus pour demain. 0 à 15 degrés au réveil des Vosges au Roussillon, mais 9 à 23 degrés demain après-midi avec 16 à Lille, 17 à Paris, 18 à Nantes, 21 pour Toulouse, 22 à Nice, c'est la même chose pour dimanche.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu, les dessous de la préparation très secrète de la sélection du Qatar qui ouvrira le mondial de foot dans 9 jours maintenant face à l'Équateur. Bonsoir Mathias Valton.
Bonsoir.
Correspondant de RTL en Espagne. L'Espagne choisie par le staff qatari pour s'entraîner donc avant le mondial. Et c'est un peu la surprise du chef hein, parce qu'on l'a découvert il y a seulement quelques jours.
Oui, c'est un journaliste du quotidien andalou Diario El Sour qui a révélé cette information, mais il y a seulement une dizaine de jours, alors que la sélection qatarienne s'entraîne à Marbella depuis le 5 octobre dernier. C'est dire, comme du côté du Qatar, on cherche à tout prix à garder le secret sur la préparation de sa sélection nationale qui disputera chez elle sa première Coupe du Monde.
Mais pourquoi ils ont choisi l'Espagne ?
Alors, ils ont choisi l'Espagne déjà parce que le sélectionneur de l'équipe du Qatar, Félix Sanchez Blas, est comme son nom l'indique, espagnol, mais surtout parce qu'il s'entraîne au Marbella Football Center, un centre d'entraînement haut de gamme qui dispose de 4 terrains de foot à 11, de 4 autres de foot à 7, d'un gymnase équipé de machines dernier cri, d'un spa avec plusieurs piscines et d'un sauna. C'est un complexe sportif prisé des sélections nationales, voire même des grandes équipes européennes. En 2019, par exemple, avant sa finale de Ligue des Champions, Liverpool était venu s'entraîner une semaine au Marbella Football Center. Mais à la différence de la sélection du Qatar, là, on avait pu voir les joueurs déambuler dans les rues de la ville.
Oui, parce que c'est vraiment ça la particularité de cette préparation de l'équipe qatari, c'est qu'elle se fait dans un secret inédit pour une sélection nationale.
Oui, les 65 membres de la délégation qatarienne n'effectuent que 2 trajets par jour et en bus, de leur hôtel au centre d'entraînement et du centre d'entraînement à leur hôtel. Interdiction de flâner dans les rues de la ville, réputée pourtant pour son tourisme de luxe, de profiter des bars et restaurants du coin, pas plus que des plages de la Costa del Sol. D'ordinaire, les sélections nationales profitent pourtant de leur préparation à un grand tournoi pour ouvrir leurs portes au public et aux médias. Et bien là, c'est tout le contraire, tout est complètement verrouillé. Leurs entraînements, comme leurs matchs amicaux, se disputent à huis clos et aucun accès aux joueurs et au staff n'est autorisé au public et aux médias. Aucune accréditation presse, par exemple, n'est accordée et toutes les demandes d'interview sont refusées. Le mystère qui entoure cette préparation semble en tout cas porter ses fruits puisque la sélection qatarienne a remporté les 4 matchs amicaux qu'elle a disputés. Elle quittera Marbella dimanche, direction le Qatar, où elle disputera le match inaugural de la Coupe du Monde. Ce sera le dimanche 20 novembre face à l'Équateur. Le tout premier match aussi de son histoire dans la compétition.
Voilà donc les dessous d'une préparation très secrète. Mathias Valton.
Laissez-vous tenter, dernière.
Au musée, ce soir, avec vous Monique Inès, bonsoir.
Bonsoir.
À la Fondation Louis Vuitton, précisément à Paris, pour une exposition de 2 peintres immenses. L'impressionniste français Claude Monet, à qui l'on doit notamment les Nymphéas.
Bien sûr.
Et la peintre abstraite américaine Joan Mitchell.
Oui, 2 géants de la peinture, même si l'américaine est moins connue en France. C'est l'occasion de la découvrir ce week-end. Comme l'ont déjà fait plus de 150 000 visiteurs, les parents de Nathan en font partie. Ils ont été admirés les 120 tableaux monumentaux de Claude Monet et Joan Mitchell exposés à la Fondation Vuitton depuis un mois.
Alors c'est la première confrontation de ces deux génies de la couleur.
2 continents différents, 2 générations différentes, mais qui se retrouvent par la débauche de couleurs et l'amour de la nature. Monet peignait au début du siècle les nymphéas du jardin de sa maison de Giverny dans l'Eure, et Joan Mitchell s'inspirait des paysages entourant sa maison de Vétheuil dans le Val d'Oise, parce que bien qu'américaine, née à Chicago en 1925, Joan Mitchell habitait Vétheuil depuis 1968 jusqu'à sa mort en 1992 à 62 ans.
Et on dit qu'elle n'était pas commode. On dit qu'elle n'était pas commode, Joan Mitchell.
Mais
c'est vrai.
Mais non. C'est une fougueuse. C'est une passionnée. Et on le comprend quand on voit ses tableaux monumentaux. Joan Mitchell peignait la nuit. On a l'impression qu'elle se chamaille avec sa toile, qu'elle l'attaque à grands coups de pinceau. La directrice artistique de la Fondation Vuitton, Suzanne Paget, l'a bien connue.
Elle pouvait être très rugueuse, très frontale. Cette énergie, cette violence, ce doublet d'une hypersensibilité. C'est aussi une coloriste complètement exceptionnelle. Elle a des couleurs très fortes, très complémentaires, les bleus, les jaunes, les rouges et les verts. C'est-à-dire des couleurs qui cognent. Hein. Et ça dégage une puissance incroyable que son corps dégageait aussi, parce que c'est une athlète.
Ben oui, elle était championne de patinage artistique, Joan Mitchell. Et quand on le sait, on le voit sur ses toiles ébouriffantes qui contrastent avec la douceur des nymphéas de Monet. C'est une drôle d'expérience de redécouvrir la peinture de Monet en la lumière de celle de Joan Mitchell. Allez, ne cherchez surtout pas à théoriser ou à essayer de comprendre la technique de l'un ou la méthode de l'autre. D'après Suzanne Paget, il faut s'exposer à la peinture et attendre qu'elle agisse sur nous.
Elle voulait faire passer ce qu'elle appelait, elle, le feeling. Et Monet a dit que ce qu'il voulait, c'est essayer simplement de transcrire une sensation. Donc, sensation et feeling, c'est extrêmement proche. Et dans cet accrochage, les œuvres, si on les regarde bien, elles parlent. Mais il faut se mettre en état de fragilité pour les écouter.
Allez donc écouter parler les œuvres de Joan Mitchell et Claude Monet qui ont peint sur des toiles monumentales la nature, les paysages, l'eau, les transparences. Leur peinture gestuelle, colorée, floutée chez l'un, violente chez l'autre, s'offre à vous jusqu'au 27 février 2023.
À la Fondation Vuitton à Paris. Merci Monique Younes. Une petite pause et ensuite on refait nos régions avec Vincent de Rosier de Marseille à Douarnenez en passant par Clermont-Ferrand.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.